France Inter.
Leïla Slimani, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi écrivez-vous ?
Pour éviter de vivre.
Si vous étiez un livre, quel en serait le titre ?
Roman inachevé.
Une qualité indispensable pour écrire ?
La ténacité.
Un défaut indispensable pour écrire ?
L'égoïsme.
Romancière, autrice ou écrivaine ?
Les trois, mais ça dépend à quel moment.
France Inter, Radio-Canada, RTS La Première, RTBF La Première, etc. Lilia Hassel.
Bienvenue dans l'émission Etc. Cette semaine, j'ai voulu réunir deux romancières qui travaillent chacune à leur manière les questions du désir et du corps, Leïla Slimani et Emma Becker. Dans son premier roman, Dans le jardin de l'ogre, Leïla Slimani racontait l'histoire d'Adèle, une femme prisonnière de ses pulsions, esclave d'un appétit sexuel démesuré. Derrière cette addiction, une obsession de romancière, les conflits au sens large entre pression sociale et quête d'émancipation. Cette exploration, Leïla Slimani l'a poursuivie avec Chanson douce, prix Goncourt 2016, et plus récemment à travers cette trilogie familiale. Dans son dernier tome « J'emporterai le feu », il est une fois de plus question du corps. Le corps dans les années 90 en France et au Maroc. Le corps d'une petite fille dans un berceau qu'une sœur étouffe par jalousie. Celui d'une femme qui désire, d'une autre qui accouche et fait accoucher d'autres femmes. Des corps de femmes qui appartiennent à tout le monde, sauf à elle-même. J'aurai le plaisir de recevoir également la romancière Emma Becker qui, depuis son premier roman, fait de son propre corps la matière de ses livres. J'ai parfois été circonspecte, je l'avoue, à la lecture de La Maison notamment, autofiction sortie en 2019, dans laquelle elle relatait sa propre expérience de la prostitution. Mais à bien y réfléchir, le corps féminin se plaît parfois à s'objectifier lui-même, c'est une réalité qu'on le veuille ou non, aux romanciers d'oser objectifier le corps des hommes à leur tour. C'est ce qu'Emma Becker entreprend dans son dernier roman, Le Mal Joli, un livre plutôt cru mais pas dénué du humour sur la relation passionnelle et adultérine qu'Emma, mère et épouse, entretient avec Antonin, écrivain Aristo. Il sera surtout question d'écriture tout au long de cette émission, puisque les derniers livres de nos romancières questionnent aussi le métier d'écrivain, qui n'en est peut-être pas un. Et nos libraires francophones seront avec nous comme chaque semaine pour leurs questions et conseils de lecture. Vous écoutez Etc. C'est parti.
Etc.
Emma Becker, bonjour.
Bonjour.
Et rebonjour, Leïla Slimani.
Bonjour.
Est-ce que vous vous connaissez toutes les deux ?
Oui, absolument.
Vous êtes déjà rencontrées ?
Oui, on s'est déjà rencontrées.
Vous évoquez toutes les deux dans des interviews, dans des livres, le conflit entre maternité et écriture. Emma Becker, vous êtes partagée dans votre dernier roman entre trois passions, celle pour un homme, celle pour vos enfants, celle pour l'écriture. Vous parlez d'écartèlement. Est-ce le propre, selon vous, de la condition féminine ?
Je crois, c'est-à-dire toutes les expériences que j'ai pu faire en tant que femme depuis que je suis née dénoncent un écartèlement, une espèce de schizophrénie imposée par le monde dans lequel les femmes grandissent et qui les formate aussi à se mettre au service de tout le monde et la dernière personne qu'on sert en tant que femme, c'est soi-même. Donc les moments de respiration pour une femme sont rares et je pense que c'est pour ça, en tout cas moi, que j'écris, c'est parce que c'est le moment où, pour une fois, je ne m'appartiens qu'à moi-même.
Leïla Slimani, la maternité, c'est un thème aussi qu'on retrouve dans vos livres. Est-ce qu'écrire et être une mère suffisamment bonne, comme dirait l'autre, c'est possible ?
Oui, je crois que c'est possible, mais il faut l'apprivoiser, il faut accepter d'être suffisamment bonne, c'est-à-dire pas absolument parfaite. Moi, j'ai été un peu dans mon enfance écrasée, mais en même temps admirative, d'un modèle de mère, la mienne, qui était d'une certaine façon parfaite, une mère extrêmement présente, extrêmement aimante, qui était toujours prête à tout pour nous. C'était à la fois merveilleux et en même temps écrasant, parce que cette mère-là, qui m'apparaissait comme une sorte de sainte, d'une certaine façon, je ne voulais pas lui ressembler. Je voulais conquérir une part de liberté, mais aussi une part d'égoïsme. Je voulais qu'on accepte le fait que moi, j'étais égoïste. J'aime beaucoup cette façon qu'Alice Munro, l'écrivaine canadienne, a de raconter la maternité, où elle dit « J'ai toujours écrit d'une main et de l'autre main, je poussais mes enfants hors de mon bureau ». Je crois que ce qui est difficile quand on est écrivaine, c'est de pouvoir avoir l'impression que vos enfants deviennent à un moment des adversaires. C'est-à-dire qu'ils vous empêchent d'être ce que vous voulez être. Vous pouvez l'accepter d'un mari, d'un amant, de vos amis, mais de vos enfants, c'est plus difficile à accepter parce que vous avez l'impression de ne pas assumer un choix profond que vous avez fait, qui est celui d'être mère. Mais je dois dire, pour rassurer les écrivaines, qu'avec le temps, les choses vont de mieux en mieux, et qu'il n'y a pas très longtemps, après une très mauvaise journée d'écriture, j'étais en pyjama, en larmes, sur mon canapé, en train de dire que j'allais tout arrêter, peut-être même me suicider. Et mon fils est rentré de l'école avec un copain qui l'a regardé, qui lui a dit « Mais ça va, ta mère, qu'est-ce qu'elle a ?» Et mon fils s'est mis à sourire, il a dit « Mais non, t'inquiète pas, c'est le monde de maman. » Et j'ai trouvé ça très joli, voilà, j'ai compris que ça y est, mon fils avait compris que j'avais un monde à moi.
Ce qui est vrai, c'est que la littérature, enfin que les enfants peuvent empêcher, mais être empêché en littérature, c'est aussi très utile, non ? Emma Becker.
Ah oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que j'ai eu souvent tendance à considérer que mes enfants empiétaient sur mon processus de création. Et en même temps, quand je regarde derrière moi, les trois derniers livres que j'ai écrits n'auraient pas pu se faire sans cette oppression des enfants, sans cet obstacle qu'ils représentent. Et j'ai beaucoup écrit là-dessus. Donc mes enfants sont à la fois un empêchement et un facilitateur d'écriture. C'est-à-dire, c'est un sujet extrêmement riche et extrêmement intéressant, la façon dont on réussit à se faire un monde à soi, tout en élevant des enfants à qui on essaye d'expliquer que maman n'est pas que maman, que maman est aussi une personne, mais que cette personne-là ne veut pas de mal à maman. C'est-à-dire, comment toutes ces femmes cohabitent, c'est quelque chose sur lequel on peut écrire pendant des années, je pense.
Leïla Slimani, vous écrivez dans votre livre au sujet du personnage d'Aïcha, la mère de Mia et Inès. Depuis qu'elle était mère, son esprit n'était occupé que par elle, ses filles, et elle s'étonnait qu'on ait pu tant écrire sur l'amour, sur le sexe, qu'on ait pu raconter tant d'histoires sur les hommes et les femmes, quand elle était convaincue, elle, qu'il n'existait qu'un seul véritable amour. Est-ce que c'est une pensée que vous formulez à vous-même ?
Pas en ces termes-là, mais je sais que ça existe. Je sais, parce que je l'ai vu, j'en ai été témoin de ces mères pour qui il n'y a pas d'amour plus grand, plus fort, d'amour plus inconditionnel que celui qu'elles ressentent pour leurs enfants. Mais j'ai aussi toujours vu chez ces mères une forme de souffrance, parce qu'elles ne vivent que pour eux. Et que, bah, eux, à un moment, ils prennent leur liberté, ils vivent leur propre vie. Donc, non, moi, je le formulerai pas de cette manière, même si je trouve que c'est un amour tout à fait particulier, que c'est un amour qui me nourrit autant qu'il m'empêche. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Emma. Il est à la fois la matière, le cœur de ma réflexion et le cœur de mon travail. Et puis surtout, moi, j'ai une très grande fascination pour leurs personnes, pour les individus que sont mes enfants. En fait, plus je les vois devenir des personnes singulières, avec leur caractère, avec leurs avis sur le monde, et plus grandit en moi aussi une forme d'amour et de fierté aussi, je le reconnais, de mes enfants.
Et vous n'auriez pas écrit Chanson douce sans cette expérience de la maternité aussi ?
Oui, absolument. Oui, Chanson douce qui, sans en les plus, angoisses est dédiée à mon fils. Alors, c'est vraiment... c'est très psychanalytique, mais absolument. Mais même dans Le Jardin de l'Ogre, le personnage d'Adèle a une relation très, très compliquée avec son enfant. Mais je crois que ce qui était beau pour moi, c'est que j'arrivais pas à assumer, avant même d'être écrivaine, j'arrivais pas à assumer que la maternité ne soit pas pour moi un épanouissement absolu. Je crois que j'étais très en colère contre, d'une certaine façon, les mensonges dans lesquels on m'avait bercée depuis l'enfance. Cette idée qu'une fois que je serai mère, je ne serai plus seule. Cette idée que cet amour allait me remplir pour toute la vie et que je trouverais un sens à ma vie. La maternité n'a pas du tout été comme ça. Je l'ai vécu avec aussi des moments très très sombres, et je crois que la littérature, ça a été aussi une manière pour moi de tendre la main et de dire, mais dites-moi que vous aussi, ça a été un moment de peur, parfois un moment où vous êtes senti seule, vous avez envie de partir, de tout abandonner, ou au moins de mettre pause pendant quelques instants. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est d'un coup de créer aussi cette sororité, cette empathie avec d'autres femmes qui osent d'un coup vous avouer que non, ça n'est pas ce monde merveilleux qu'on nous a raconté depuis que nous sommes petites filles.
Emma Becker, Leïla Slimani, vous restez avec nous. Dans un instant, nous parlerons d'identité et de dualité. Peut-on être un et deux à la fois ? Mais avant, on écoute Zao de Sagazan parler l'amour.
Découvre-toi, couvre ma bouche comme l'autre fois. Quelle bonne idée de parler l'amour, parler d'amour. avec toi, pas plus bas, là c'est bien. Tes doigts, quelle bonne idée de parler d'amour, parler d'amour, parler d'amour, je veux parler d'amour,
Vous écoutez Etc. et nous sommes toujours en compagnie des romancières Emma Becker et Leïla Slimani. Tout à l'heure, on parlait d'écartèlement et cette notion m'intéresse parce que ce pourrait être le refrain de votre trilogie familiale, Leïla Slimani. Votre livre commence au milieu des années 80 et se poursuit jusqu'au début des années 2000, je parle du dernier tome. On suit le destin de Mia et Inès, la nouvelle génération, et leurs parents, Aïcha et Mehdi, le père, personnage central du roman. En refermant, j'ai eu le sentiment que votre trilogie au départ était une tentative de vous trouver vous et que vous avez finalement rencontré votre père.
Oui, c'était une tentative de me trouver moi et je n'ai pas seulement rencontré mon père, j'ai rencontré tous les autres qui vivaient en moi. Je me suis rendu compte que plus on plongeait profondément dans l'introspection et plus ce qu'on rencontrait c'était les autres, les fantômes des gens qui ont disparu, les fantômes des gens aussi qu'on a croisés, qu'on ne voit plus, qui ont disparu de nos vies et que cette multitude qu'on abrite, eh bien, c'était une réalité et qu'au fond peut-être cette recherche de l'identité, d'essayer de répondre à qui je suis en essayant de rentrer dans des cases, de correspondre à des normes, c'était peut-être une recherche totalement vaine et qu'au fond, on était surtout constitué voilà, de l'altérité.
En imaginant, on retrouve la réalité ?
Ah oui, absolument. De toute façon, je crois qu'on n'a pas d'autre choix, puisque la mémoire est par définition fragmentaire, parcellaire. Il manque plein de morceaux. Donc, on n'a pas d'autre choix que de passer par l'imagination pour tenter de coudre entre eux les morceaux du passé et de trouver une sorte de cohérence, de donner une forme à notre existence, à l'existence de ceux qu'on a connus, mais aussi peut-être de donner une forme aux questions qui nous oppressent, qui nous travaillent, comme celle de l'identité ou comme celle du chagrin, par exemple, qui peut nous habiter depuis longtemps. Donc l'imagination, d'une certaine façon, elle est incontournable.
Vous venez de parler d'identité. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de constat d'échec à la fin du livre, mais un échec plein de tendresse. Vous écrivez « Mon père aimait se faire passer pour ce qu'il n'était pas, et comme lui, je suis devenue mon propre faussaire ». Moi, j'ai adoré cette phrase à l'heure des identités affirmées et revendiquées, parler de soi comme d'une faussaire.
Oui, parce que je fais le constat à la fin que finalement, très souvent ou la plupart du temps, notre identité est d'abord définie par le regard que les autres ont sur nous. Et que quand on a un petit peu d'expérience et que les années ont passé, on sait aussi jouer avec ce regard et devenir ce que les gens veulent que vous soyez parce que c'est plus confortable, parce que ça fait moins peur, parce que c'est moins épuisant. Et qu'au fond, ce qui est peut-être le plus dur et ce dont je me suis rendu compte à la fin du livre, c'est que moi j'ai le sentiment depuis 20 ans de vivre dans une époque où la notion d'identité est toujours définie par en haut. C'est-à-dire on vous dit ce que vous devriez être et vous essayez avec les forces que vous avez de correspondre à ça. Alors ça peut être au Maroc avec la montée des mouvements conservateurs, cette idée de la femme marocaine, qu'est-ce que c'est être un bon marocain ou une bonne marocaine. Et pareil en France, vous essayez de vous assimiler pour devenir le bon français ou la bonne française telle qu'il l'attendent, mais au fond, tout ça me paraît une énorme erreur, parce que l'identité, ça ne peut jamais être ça. L'identité, elle vient forcément d'en bas, elle est construite par chacun à sa manière, elle est forcément totalement singulière, confuse, sans doute informe, faite d'une histoire pleine de méandres, et au fond, je crois que c'est ça qu'il faut reconquérir, le droit à une identité qui soit profondément intime et peut-être presque indéfinissable, et c'est en ça qu'elle est belle et qu'elle est vivante, parce que jusqu'au bout, elle continue à se transformer.
Vous avez souffert, vous, à un moment, d'une forme de décalage entre l'image que vous renvoyez et ce que vous aviez l'impression d'être intérieurement ?
Oui, parfois j'en ai souffert, même si j'ai toujours eu conscience que cette souffrance, elle ne servait à rien, qu'elle m'encombrerait pour rien, parce que de toute façon, je dirais que c'est le cas pour tout le monde, et c'est un fait lié à la condition humaine. Nous ne sommes jamais compris par les autres, nous sommes toujours perçus d'une façon qui est sans doute très différente de ce que nous sommes à l'intérieur, mais ça, c'est un constat que j'ai fait toute petite. Les premières injustices, les premiers malentendus, les premiers tu es ça ou tu es ça, alors qu'on sait très bien qu'on ne l'est pas, bien on fait avec toute sa vie. Au fond, moi, c'est ce qui m'a donné envie d'être écrivain, parce que j'ai eu l'impression, enfin, envie d'être écrivain, et qui a fait de moi une grande lectrice, parce que j'avais l'impression que peut-être à travers les livres, c'était le seul endroit où on pouvait se comprendre vraiment, où on pouvait entrer dans la tête des gens et donc avoir accès à leur pensée intérieure et peut-être être capable de beaucoup plus d'indulgence et de tendresse que dans la vraie vie où on est presque tout le temps injuste.
Emma Becker, vous, ce décalage entre l'image et ce que vous êtes, c'est une question qui vous a travaillé ?
Oui, toujours. Enfin, ça m'a travaillé à partir du moment où on s'est empressé de ranger mes bouquins dans la catégorie de la littérature érotique, par exemple. Je pense que c'est un gros malentendu que je ne prends pas personnellement, mais qui est un malentendu sur ce que veulent dire les femmes quand elles écrivent sur leur intimité, sur leur sexualité. Et l'image qu'on vous renvoie à ce moment-là, c'est l'image de quelqu'un qui essaye d'émoustiller, qui essaye de, voilà, d'incarner quelque chose. Alors, quand j'avais 20 ans, c'était la Lolita qui adore les hommes plus âgés. Encore une fois, c'était un défaut, je pense, de perception. Après, j'ai fait ma paix avec ça, parce que ça dit beaucoup plus des gens que de moi en général. Mais effectivement, il faut au bout d'un moment, je pense, être un peu paisible avec ce décalage impossible à combler.
Alors, Léa Slimani, dans cette émission, on prône justement les identités multiples et floues, etc. est une émission diffusée en Suisse, au Canada, en Belgique. Vous avez été vous-même la représentante personnelle d'Emmanuel Macron pour la francophonie. Il vous inspire quoi, ce mot de francophonie ?
Il m'inspire précisément ça, la diversité d'abord, la diversité, la créativité, l'invention, la créolisation. Vraiment, moi, j'ai été fascinée, stupéfaite et très amusée aussi de découvrir tous les Français, parce qu'il n'y a pas une langue française, il y a des langues françaises. Et puis moi, j'étais très contente et très fière aussi de lancer un message, notamment aux personnes dans mon pays, mais même dans les pays du Maghreb, où à l'époque où j'ai accepté ce poste, il y avait un très grand mouvement anti-langue française, considérant que c'était une forme de trahison de notre identité. Moi, je crois au contraire que c'est une des grandes chances aujourd'hui des jeunesses, notamment africaines, d'être des jeunesses plurilingues qui maîtrisent deux, parfois trois, voire quatre langues. Et c'est quand même extraordinaire. Et je pense qu'il faut absolument que tous ceux qui le peuvent continuent à le défendre, à le promouvoir.
On va justement accueillir une libraire canadienne. Audrey Martel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes libraire à la librairie L'Exèdre à Trois-Rivières au Canada, donc. Et ce qui vous a plu dans l'écriture de Leïla Slimani, c'est qu'elle parle du Maroc, mais qu'en fait, vous, depuis le Canada, vous vous êtes reconnue.
Oui, Leïla Slimani, vous ne le savez pas encore, mais vous et moi, ben, nous sommes copines, dans ma tête, du moins. J'admire votre travail, vos réflexions sur l'identité, l'écriture, entre autres. Alors, bien sûr que j'attendais avec impatience la parution de ce nouveau livre que j'ai aimé tout autant que les précédents. Mon seul regret, pour être honnête, ben, c'est qu'il vient clore la série Le Pays des Autres, ce qui veut dire que c'est terminé. Je me suis attachée au personnage que vous avez su rendre crédible, vivant et touchant de sincérité. Je trouve que chaque tome apporte un nouvel éclairage sur la société marocaine, sur les défis de la décolonisation, entre autres, et de l'émancipation féminine. Et comme nous sommes copines, à votre insu, je le répète, j'avais hâte d'en apprendre plus sur Mia, croyant que j'en apprendrais plus sur vous par le fait même. Or, j'ai été surprise de voir que vous avez brouillé les pistes finalement. Ce livre, ben, c'est pas une autofiction. Votre écriture est parfaite, comme toujours. La lecture est instructive, sans toutefois nous donner l'impression de lire un ouvrage qui croulerait sous les données encyclopédiques. Vous savez jouer de subtilité et de nuances tout au long de ce roman-là, qui n'est pas manichéen. On sent pas que vous avez une thèse à défendre. Vous nous permettez de faire notre propre lecture sensible, c'est-à-dire de nous forger notre propre compréhension des enjeux que vous y présentez. Alors, j'ai déjà hâte de découvrir votre prochain projet. Et en attendant, ben, j'ai une question pour vous. Vers la fin du roman, au sujet de ses origines alsaciennes, Mathilde se demande à quel moment votre pays cesse-t-il d'être le vôtre? Cette question vient pas longtemps après la scène marquante de la victoire historique de la France à la Coupe du monde de football. J'étais d'ailleurs en France à ce moment-là. Alors, je me demande à quel moment un pays devient-il le nôtre?
Merci beaucoup pour votre question. Puis je suis très contente qu'on soit copines. Moi, j'adore avoir des nouvelles copines.
Oui, surtout au Canada, ça parle. Voilà, il fait un peu froid quand même.
Non, mais je vais y aller bientôt en plus, donc c'est bien. Écoutez, à quel moment un pays devient le vôtre ? Je crois que c'est quelque chose qui se fait d'abord dans un temps long. C'est pour ça qu'à la fin du livre, il y a cette métaphore des papillons, de ces papillons, belles dames, qui sont des papillons migrateurs qui quittent l'Afrique pour rejoindre le cercle polaire. Et ça n'est jamais celui qui part, qui est celui qui arrive à destination, mais son petit enfant. C'était pour signifier le fait que je suis toujours très étonnée et un peu attristée par le fait qu'on utilise le mot immigration comme si c'était un mot de l'immédiateté. C'est-à-dire, voilà, on immigre et puis on arrive, on est un immigré, mais ça n'est pas du tout comme ça que ça se passe, parce que on met du temps à partir et on met beaucoup de temps à arriver, on met beaucoup de temps à habiter. Et je dirais que c'est une affaire de sensation. D'un coup, vous vous rendez compte que vous vous êtes habitué à un climat, vous vous rendez compte qu'un plat qui vous paraissait étranger fait désormais partie de votre quotidien, qu'une expression que les gens utilisaient, que vous ne compreniez pas, vous la glissez dans vos conversations. Ce sont des choses à la fois tout à fait anodines, mais qui vous transforment petit à petit et qui font que vous adoptez aussi des attitudes que vous pouviez parfois juger ou ne pas comprendre. Moi, je me souviens très bien de la première fois où j'ai été extrêmement désagréable avec quelqu'un dans le bus. Et
à la fin,
je me suis dit, voilà, ça y est, je suis devenue parisienne. Et j'en avais à la fois honte et en même temps, j'étais un peu fière. Donc voilà, je crois que c'est fait de plein de petits gestes, en fait.
Merci Audrey. La réponse vous convient ?
Oui, ça va. Bon, on pourra en parler davantage quand on se prendra
voilà, quand je viendrai.
Quand vous vous retrouverez toutes les deux entre copines. Alors pour prolonger la question d'Audrey et la Slimani, dans votre livre, vos personnages sont tous dans des entre-deux. Et le personnage de Mia, auquel on vous identifie quand même, ne supporte pas l'hypocrisie. Vous écrivez à un moment, Mia avait fini par comprendre qu'elle vivait entre deux mondes, celui de la maison où ses parents se montraient modernes, soucieux de la réussite de leur fille et de leur émancipation, et le monde du dehors, dangereux et incompréhensible. Ses parents étaient des hypocrites et Mia se sentait humiliée en constatant qu'ils n'étaient pas libres. Cette hypocrisie, elle vient d'où fondamentalement ?
Elle vient d'abord du contexte dans lequel Mia grandit. Elle grandit dans les années 80 au Maroc, donc dans un pays qui est à l'époque un régime autoritaire, un régime répressif où il n'y a pas de liberté d'expression, où s'exerce l'arbitraire et où donc on peut être incarcéré pour des choses qu'on dit, pour des choses qu'on fait, pour des attitudes qu'on a. Un pays aussi dans lequel est en train de monter une forme de conservatisme, d'islamisme, et qui fait que les familles comme la famille de Mia, qui sont des familles cosmopolites, où on boit de l'alcool, où on peut être amené à manger du porc, où on a des propos, des comportements qui sont plutôt libéraux, occidentalisés, comme on peut dire là-bas, sont de moins en moins bien considérés, sont vus comme des mécréants. Et donc, évidemment, les parents de Mia sont pris dans une très grande contradiction, où à la fois ils enseignent à leurs enfants les valeurs auxquelles ils croient, toutes ces valeurs-là, justement, la liberté d'expression, le féminisme, l'égalité, et ne cessent de leur dire qu'en revanche, il ne faut pas le dire quand elles sont à l'extérieur, qu'il faut courber les chines, qu'il faut raser les murs face aux islamistes et face à ce régime autoritaire. Et pour une enfant ou une adolescente, c'est quelque chose d'abord de très déstabilisant, c'est quelque chose qui provoque une grande confusion et une grande douleur. Et surtout, ça provoque une douleur parce que l'image que vous renvoie à ce moment-là vos parents est une image brouillée et vous vous dites « Mais pourquoi est-ce que mes parents ne sont pas courageux s'ils disent qu'on a raison, s'ils disent que c'est comme ça qu'il faut vivre? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'assument pas? Pourquoi est-ce que c'est nous qui devons nous taire, et les autres qui ont le droit de parler plus fort. Mais en fait, elle fait l'apprentissage de la minorité. Elle se rend compte qu'elle appartient à une minorité dans un pays pour qui cette minorité n'est pas désirable.
Moi, je me demande quand même dans quelle mesure cette duplicité sert, peut servir un projet littéraire. Enfin, à quel point ça sert l'écriture aussi d'apprendre ça.
Oui, enfin, je crois qu'en tout cas, cette question du mensonge, cette question de l'adaptation de son discours selon les contextes dans lesquels on se trouve, le fait aussi de vivre dans une société, parce qu'au-delà du régime répressif, moi, par exemple, je milite beaucoup pour les droits sexuels au Maroc, puisqu'au Maroc, la sexualité hors mariage est interdite, hétérosexuelle et homosexuelle, et que, évidemment, j'ai toujours vécu dans un monde où on me disait, fais ce que tu veux, mais fais-le en cachette. Et donc, le fait de vivre dans deux mondes comme ça, parallèles, nourrit aussi, évidemment, le désir d'écrire, le désir de faire exploser les carcans, et le désir d'aller explorer des lieux interdits, des lieux, voilà, des lieux cachés, ça c'est certain.
Et vous avez raison, en fait, l'hypocrisie, elle perdure.
Oui, bien sûr, l'hypocrisie, elle perdure parce qu'elle est une des fondations de cette société. D'abord dans le rapport que les gens ont avec le corps, dans le rapport un peu, vraiment, oui, pour le coup, très, très hypocrite que les gens ont avec la pudeur. Moi, je me souviens qu'au début, quand je venais sur les plateaux pour parler du Maroc, pour dénoncer ces choses-là, les gens me disaient, oui, oui, tu as raison, ce que tu dis, c'est vrai, mais il ne faut pas le dire. Et c'est comme ça qu'on pourrait résumer en grande partie l'idéologie ou parfois l'état d'esprit marocain, c'est vrai, mais...
Ça c'est même ancré, en fait, oui, dans les personnalités, exactement. Dans les manières de se comporter.
Exactement, donc cette idée, donc c'est pour ça qu'aussi l'écriture était pour moi un espace à la fois très très désirable et très très dangereux, parce qu'étant une fille et étant marocaine, l'idée de dire ce que je pense, l'idée d'être impudique, l'idée de prononcer les choses publiquement était insupportable pour beaucoup de gens.
Emma Becker, on parlait de pudeur, donc c'est parfait.
Oui, c'est bien, quand même.
Tous vos livres semblent être précisément des pieds de nez à l'hypocrisie. Vous y avez été confrontée aussi, mais en France, ce qui peut sembler plus étonnant, mais avec des critiques en forme de jugement moral.
Oui, est-ce que c'est si étonnant? Je ne suis pas sûre. L'hypocrisie des gens face à la chose sexuelle intime, je pense, à des degrés différents, se retrouve dans à peu près n'importe quel pays, n'importe quelle culture. Moi, je suis toujours assez fascinée.
Et en France, on adore ça. C'est-à-dire que les émissions sur le sexe font des pics d'audience.
Mais bien sûr.
C'est là où c'est quand même paradoxal.
Tout à fait. Mais c'est-à-dire que le sexe est par essence quelque chose qu'on aime quand il est caché. C'est-à-dire que quand il est comme ça, devant tout, enfin, au vu et au su de tout le monde, ça ne devient plus très, très intéressant. C'est un sujet qui vit bien dans l'obscurité, dans un sens, heureusement, parce que sinon, je pense que ce que j'écris serait un petit peu moins certainement intéressant. Mais c'est quand même intéressant pour moi de voir que, par exemple, sur ce dernier bouquin, les commentaires les plus, vindicatifs venaient souvent de femmes, c'est-à-dire qui me disaient « mais ça, tu vois, c'était peut-être pas forcément la peine de le dire ». Enfin, toutes ces scènes que j'écris d'attente de l'amant où il se trouve que mon personnage a mal au ventre, bah, ça fait deux jours qu'elle se retient, quoi. Ce sont surtout des femmes qui m'ont dit « mais ça, c'était peut-être pas la peine de le dire », alors que précisément, j'ai l'impression qu'en parlant de ça, de femmes qui ont mal au ventre, de femmes qui ont envie de péter, j'ai l'impression de rendre service quand même. C'est des secrets féminins et parce que, qui je pense, perpétuent cette idée d'une femme sacrée, perpétuellement désirable, perpétuellement désirante elle-même. Et c'est une fabrication complète qui, je pense, nous sert le coup en permanence.
Leïla Slimani, vous avez aussi écrit sur la sexualité à plusieurs reprises, et notamment dans votre premier roman, Le Jardin de l'Ogre. Et je me posais une question, est-ce que vous auriez pu écrire ce livre si votre père était encore vivant ?
Oh, je suis incapable de vous répondre, je ne sais pas, parce que je suis incapable d'imaginer ce que j'aurais été comme femme si mon père était encore vivant. Mais en même temps, je sais que je lui dois aussi mon amour de la littérature, que je lui dois une part de mon insolence, une part de mon effronterie. Et qu'en même temps, ce livre, c'est un livre assez mélancolique. C'est un livre sur une sexualité qui n'apporte pas de plaisir, qui n'apporte pas de satisfaction, qui est en fait une sorte d'immense précipice de solitude. Donc je crois aussi que le chagrin qui a été provoqué par la mort de mon père n'est pas totalement indifférent à l'écriture de ce livre, de cette femme qui cherche quelque chose qu'elle ne trouvera jamais et qui cherche à souffrir pour sentir.
C'est très psychanalytique.
Voilà.
Emma Becker, Leïla Slimani, dans un instant, on entrera dans vos ateliers d'écriture et plus en détail dans votre livre, Emma Becker, Le Mal Joli. Mais avant ça, on écoute les Rita Mitsouko, Andy.
C'est une copine à moi qui m'a dit que tu t'appelais Envy. Envy, ça fait un moment que je te suis, Envy. Eh, tu viens chez moi? Ou alors on va chez toi? Allez, Envy, quoi. Oh, dis-moi oui.
Et nous sommes toujours en compagnie des romancières Emma Becker et Leïla Slimani. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS La Première, RTBF La Première, etc. Lilia Hassen.
Emma Becker, il y a un passage de votre livre que j'aimerais que vous nous lisiez. Un passage dans lequel vous évoquez le lien à vos lecteurs. C'est à vous.
Cette enquête que je mène depuis 2 mois me semble une utilisation parfaite du pli qu'ont pris les gens de me raconter spontanément leur vie, autorisée par les confidences que je leur fais, moi, en écrivant. J'ai beau ne pas les leur faire nommément, c'est-à-dire que je n'écris vraiment pour personne ou alors pour tout le monde, c'est selon. À moi, on dirait qu'on peut tout dire, hein. On ne me suppose pas de moralité, pas de pudeur, on n'a pas peur de commettre un impair. Quand je vois la facilité avec laquelle les vieilles dames qui achètent mes livres me parlent de leurs amants, les jeunes mères de leur accouchement, les messieurs de tous âges des femmes qu'ils ont payées, je me dis que je ne perds rien, au fond, à me caler en face d'eux et à orienter la conversation d'une façon qui m'intéresse. Parlez-moi d'amour fou, d'amour interdit, d'existence qui se superpose. Je me fiche des coucheries, de ce qu'on raconte toujours si gaiement. Je voudrais saisir le point de rupture, le moment où toutes ces vies ont frôlé l'effondrement. Comment ces gens, vivants et joyeux en face de moi, ayant survécu, ont procédé précisément pour survivre.
Vous dites qu'en fait, c'est pas le sexe qui vous intéresse, mais l'amour est presque une peur de l'amour.
Bah, c'est-à-dire que le sexe, on peut toujours garder ça dans un cadre. Hein. À partir du moment où on tombe fou amoureux, à partir du moment où toute notre existence est remise en cause, est remise en question par l'existence même d'un homme, oui, il y a une urgence différente. C'est-à-dire, écrire par exemple sur des coucheries et écrire sur l'amour fou, pour un écrivain, c'est pas du tout le même challenge. Parce qu'essayer d'écrire l'amour fou et la sexualité qui va avec, ça suppose de réussir à traduire ce qui n'est même pas concevable. Parce que quand on fait l'amour et qu'on est passionnément amoureux, on ne se regarde pas faire. Et pour moi, c'était un exercice très nouveau que d'essayer de récupérer des souvenirs de l'insondable, en somme.
Il y a une question que je me suis posée pendant que vous lisiez cet extrait. Où se loge votre pudeur ?
Alors, pas du tout dans la chose sexuelle, par exemple. J'ai jamais l'impression de donner de moi quelque chose de profondément intime quand j'écris la sexualité. Pour moi, c'est beaucoup plus écrire sur mes enfants, ce dont on parlait, c'est-à-dire ce déchirement d'être à la fois écrivain, donc d'avoir tout un tas d'enfants que sont les livres, et puis de devoir, comme ça, éduquer des personnes humaines en essayant d'en faire des gens convenablement construits, potentiellement des garçons un peu moins toxiques que les générations d'avant. Ça, pour moi, c'est compliqué, écrire ça. Et l'argent sont deux sujets sur lesquels je ne me penche pas volontiers.
Leïla Slimani, vous, votre pudeur, elle se loge où ?
Oh, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement pudique. En tout cas, dans la vie, je suis quelqu'un de très, très pudique physiquement. Et, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal avec le corps, qui m'a toujours beaucoup encombré. C'est peut-être pour ça qu'il a été une obsession pour moi. Et puis, je suis pudique de mes sentiments. En revanche, dès l'instant où j'écris, j'ai le sentiment de pouvoir écrire sur tout, à propos de tout. Cette pudeur disparaît totalement. D'abord, parce que peut-être que j'ai une confiance absolument illimitée dans la tendresse et dans la compréhension du lecteur. Ça revient un peu à ce qu'on disait avant. Le lecteur serait une personne un peu différente de celle qu'on croise au quotidien, une personne qui serait capable de me comprendre et de me pardonner. Donc au contraire, je m'autorise à lui dire des choses que je ne peux dire à personne d'autre.
Emma Baker, vous écrivez au présent. Quand vous vivez des choses, est-ce que vous les écrivez en même temps dans votre tête ? C'est une question bizarre, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Oui.
C'est, est-ce que vous les écrivez en même temps ? Est-ce que vous vous dites ce serait une scène incroyable ? Parce que vraiment, c'est étonnant quand on vous lit. On a l'impression que vous aviez un carnet presque à côté du lit.
Non, j'ai ma tête qui me fait office de carnet et à laquelle je fais confiance pour retenir les choses qui sont intéressantes à écrire. Je vis pas les choses pour les écrire, il se trouve que je vis des choses qui, a posteriori, me semblent être le prétexte d'une scène intéressante, enfin enrichissante. C'est-à-dire, j'ai pas une vie extraordinairement intéressante, mais peut-être que j'ai un point de vue qui me permet de saisir les trucs qui me semblent, moi, romantiques, déchirants. Enfin, comme je travaille, finalement, sur le drame que c'est d'être vivant et de ne pas pouvoir faire rentrer plusieurs vies en une seule, malheureusement, à partir de là, tout me semble intéressant. Ce serait beaucoup plus facile si, effectivement, je vivais des choses pour les écrire après.
Mais à quel point vous vous méfiez de vous-même ? Ce que je veux dire, c'est à quel point, même inconsciemment, le fait de savoir qu'on écrit sur soi,
ouais,
ça ne vous pousse pas à parfois aller plus loin dans certaines situations ou à romantiser des expériences ?
Ben, je romantise ce que j'écris parce que j'ai une très forte, parce que je mets aux événements une très forte charge affective. Donc, quand j'écrivais La Maison, par exemple, je n'étais amoureuse de personne, mais j'aimais cet endroit. Et c'est pour ça qu'il y a certaines pages un peu lyriques et on m'a accusée de romantiser la prostitution. Non, je romantise mon expérience et la façon que j'ai eue, moi, de percevoir ça. C'est très particulier d'expliquer ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui va décider d'écrire ce qui lui est arrivé. Il faut, comme disait Leïla, un mélange, je pense, d'extrême égoïsme, enfin d'extrême narcissisme, et puis un manque de confiance absolue en soi, en son propre regard. Moi, j'écris aussi pour pouvoir me remettre devant le nez des scènes que j'ai eu l'impression de traverser parfois sans les comprendre.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'en fait, moi, j'ai pas le sentiment justement que vous soyez proche de votre narratrice. Alors, oui, c'est vous le dites, mais à côté de ça, moi, je sens une distance permanente.
Ouais.
Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que vous êtes toujours à distance.
Oui, et je ne sais pas si c'est la distance naturelle de l'écrivain qui écrit sur soi, donc qui finalement est toujours dans une espèce de petite vigie en retrait à se regarder vivre, ou si ce décalage-là n'est pas beaucoup plus lié à la condition féminine, parce que finalement c'est une condition où notre seul vrai espace de liberté, c'est notre tête, c'est notre intériorité. Et donc je pense que peut-être les femmes se regardent vivre un petit peu plus que les hommes, parce qu'elles occupent tellement de rôles différents que finalement voilà, elles sont habitées par ce narrateur omniscient qui leur explique ce qui est en train de se passer, ce qu'elles ont vécu. Je sais pas, c'est une question intéressante et à laquelle j'ai du mal à répondre, mais je pense que la vérité se situe, voilà, entre la condition d'écrivain et la condition de femme.
Est-ce que ce que vous venez de dire me fait penser à la question que j'ai posée à Leïla Slimani en début d'émission, à la question « Pourquoi écrivez-vous, Leïla Slimani ?» Vous m'avez répondu « Pour éviter de vivre ».
Oui, absolument, parce que pour moi, la littérature, c'est aussi, c'est assez paradoxal, c'est le lieu grâce auquel je me suis réalisée, grâce auquel je suis devenue la femme que je voulais être, mais par lequel aussi, très souvent, je me déréalise. Je deviens une sorte de, oui, de personnage fictif, ou en tout cas, une sorte de fantôme. Je ne suis plus vraiment dans la vie. Je la regarde, je l'observe, j'attends avec impatience le moment où je vais pouvoir retourner dans mon antre. En fait, il y a une sorte de confort aussi parfois à se perdre dans la littérature. On ne s'occupe plus de la vie quotidienne, on ne s'intéresse plus à, voilà, au repas qu'il y a à faire, on a toujours une bonne excuse pour ne pas aller dîner, pour ne pas aller boire un verre, et dans cette solitude totale, dans cette vie entourée de personnages de fiction, ben, on a l'impression que rien ne peut nous arriver, et il a pu être difficile pour moi de revenir dans la vraie vie qui d'un coup m'apparaissait c'est très fade, sans intérêt.
Et c'est pas risqué, ça?
Si, c'est risqué, mais en même temps, ce risque-là, je l'ai voulu, je l'ai cherché. Et au fond, c'est ce qui m'a amenée dans ce monde-là, c'est que moi, toute petite, par la lecture, j'ai traversé le miroir, je suis allée over the rainbow tout de suite. J'ai tout de suite compris qu'en fait, non seulement compris, mais ressenti la force de la fiction d'une manière qui était parfois même pathologique. Mes parents étaient souvent inquiets quand je lisais, parce que je lisais avec une telle passion que je pouvais perdre vraiment pied, avoir l'impression de devenir le personnage, vouloir m'habiller comme lui, prendre le deuil d'un personnage qui était mort pendant plusieurs jours. Donc j'ai toujours eu ce rapport à la fiction extrêmement fort. Donc heureusement que je suis devenue écrivain, parce que sinon j'aurais peut-être, je serais peut-être devenue folle, ou j'aurais peut-être eu vraiment une grande difficulté à vivre.
Et Mavéka, vous partagez ce que Leïla Slimani vient de dire?
Oui, mais complètement, mais ce qui est très paradoxal, c'est que je serais capable de répondre exactement le contraire. C'est qu'il y a une partie de moi qui, je pense, aime tellement vivre, hein, et se sent parfois tellement en retrait par rapport à la vie, parce que j'écris là-dessus, que dans un sens, l'écriture est quelque part une autre manière de vivre. C'est-à-dire, c'est vivre doublement. J'ai vécu cette scène et je la revis en l'écrivant. Mais c'est vrai ce que Leïla disait, c'est-à-dire que c'est une manière très confortable aussi de s'extraire de l'existence, un peu comme ce que disait le personnage dans Trainspotting, finalement. Un type qui prend de l'héroïne, il n'a plus que ce souci-là. Il n'y a plus de repas, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que ce confort-là. Donc, je pense que beaucoup de contradictions à la fois.
Emma Becker, notre libraire suisse Catherine Kohler, qui travaille à la librairie Bostrich à Bienne, a lu votre roman Le Mal Joli. Catherine, bonjour.
Bonjour.
Vous avez aimé le fait qu'Emma Becker ne s'épargne pas dans son livre. On est toujours un peu ridicule quand on tombe amoureux.
Oui, Lilia, le ton du roman est intime, décalé, franc, et c'est ce qui m'a plu. Une proximité immédiate se crée avec Emma Becker, auteure et narratrice. De son propre aveu, on dirait qu'on peut tout me dire, on ne suppose pas de moralité, pas de pudeur, dit-elle, et cette familiarité, elle est accentuée par la manière d'aborder les sujets du quotidien, léger ou profond, avec une grande qualité d'introspection. Et ce qui m'a particulièrement séduite, c'est la façon de dépeindre avec humour ses failles et ses contradictions, notamment dans sa relation amoureuse, en montrant sa propension à répéter toujours les mêmes schémas. Comme elle l'écrit, je n'ai rien appris, ni des hommes, ni des livres. Je pourrais me satisfaire d'être bien baisée. C'est l'apanage des femmes libres. Les descriptions des sentiments sont d'une justesse saisissante. Quand elle dissèque la passion, ce sentiment dévorant, mais aussi les moments de solitude que connaissent les femmes en tant que mères. Je pense à cette scène très drôle sur la plage où Emma, empêtrée dans la gestion des enfants, de la crème solaire, des habits et du sable, envie les autres adultes qui jouissent pleinement de leur liberté.
Et vous aviez une question, une bonne question pour Emma Becker, Catherine.
Oui, je voulais savoir, dans le roman, la narratrice est mariée. N'est-ce pas en contradiction avec sa nature fondamentalement libre? Et comment vous avez concilié le choix du mariage institutionnel restrictif et sa grande soif de liberté?
Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Je n'ai jamais été spécialement obsédée par le mariage, mais comme toutes les petites filles, on me l'a tellement bien vendu que le mariage et la maternité, pour moi, c'était quand même, oui, dans une certaine mesure, un but. Et puis, je me suis mariée parce que j'avais déjà deux enfants et que finalement, c'est pour vous marier, c'est bien mieux qu'une alliance. Peut-être qu'il y a aussi en moi quelque chose qui a très envie d'être embourgeoisée. Enfin, peut-être parce qu'il faut voir aussi, c'est pas forcément toujours évident de porter enfin l'image que je peux transporter depuis que j'écris des livres. Et d'ailleurs, j'en parle dans le bouquin, c'est-à-dire ce que je représente moi pour tout un tas de gens. Bah, parfois, c'est un peu fatigant aussi. Et donc, je pense qu'il y a une partie de moi qui avait envie de se marier, d'avoir des enfants, et d'être finalement une femme respectable, aussi minable que ce soit de vous le dire. Mais je pense que c'était ça, ouais.
Moi, j'aime bien cette franchise. Merci Emma et merci Catherine. Votre intervention me fait penser à un passage que j'ai retrouvé dans votre premier roman, Leïla Slimani. Alors, je vous cite la phrase. Adèle a fait un enfant pour la même raison qu'elle s'est mariée, pour appartenir au monde et se protéger de toute différence avec les autres. En devenant épouse et mère, elle s'est nimbée d'une aura de respectabilité que personne ne peut lui enlever. Ça rejoint ce que vous disiez, Emma Becker. Elle s'est construit un refuge pour les soirs d'angoisse et un repli confortable pour les jours de débauche. Les enfants, le mariage, la Slimani, c'est une couverture ?
Ça peut l'être, mais ça peut être aussi, je pense, quand on a fait la paix avec soi-même, quand on sait un peu qui on est, quand on est capable de s'aimer un peu. On peut réussir aussi à faire du mariage et des enfants autre chose qu'une couverture, autre chose qu'un embourgeoisement, mais sorte de monde à soi. Moi, je crois à la famille. D'ailleurs, je n'écris que sur la famille, souvent de manière assez sombre. J'en dénonce la violence, j'en dénonce les secrets, mais c'est pas pour autant que je ne suis pas consciente aussi de ce que la famille peut apporter d'extraordinaire et pour l'avoir aussi vécu, et je le décris dans le troisième tome, notamment cette force de loyauté, cette espèce de loyauté indestructible qu'on peut percevoir dans les moments très difficiles, dans les moments de grands drames de la vie. Donc je suis critique, lucide sur la famille. En même temps, je suis extrêmement famille, je l'ai toujours été, je suis quelqu'un qui vit en clan, sans doute aussi parce que j'ai besoin de me protéger de l'extérieur, mais j'aime cette idée du clan, oui, beaucoup.
Emma Becker, nous, enfin, on a l'impression en vous lisant que vous n'avez pas besoin de vous protéger de l'extérieur, que vous cherchez presque la cassure.
Bah, je cherche, en fait, j'ai toujours cherché à vivre très intensément, et ça a été longtemps assez pathologique chez moi. C'est-à-dire qu'effectivement, pour se résoudre à l'idée d'avoir peut-être trouvé l'homme de sa vie, quoi que ça puisse vouloir dire, enfin d'avoir atteint une espèce de palier de tranquillité, ça a toujours été compliqué pour moi. Et c'est pour ça que, d'un seul coup, le grand amour me place dans une situation... je suis très décontenancée, parce que je me connais, je sais que j'ai un cœur d'artichaut, je sais que j'ai souvent tendance à passer de passion en passion, parce que c'est la seule manière que j'ai de me sentir vivante. Mais non, l'extérieur me fait pas peur, c'est sûr. J'aime entrer en contact avec tout un tas d'autres mondes. Je me ressens pas spécialement le besoin de m'en protéger, mais j'ai besoin d'être protégée de moi-même et de ce besoin d'aventure par notamment mes enfants, par quelque chose, par un bonheur tranquille qui n'a pas besoin d'être décortiqué comme l'amour que j'ai pour les hommes a pu l'être souvent.
Emma Becker, Leïla Slimani, dans un instant on parlera des passions justement. On retrouvera aussi notre libraire belge Raphaël Longo pour son coup de cœur de la semaine.
Permettez-moi de raconter mon histoire, la mia story, à ma story sur une belle mélodie. Une jolie balade, j'ai parcouru tout Paris, ses rues, ses esplanades, 19 printemps dans les rues de Paname. Sous les platanes, sous les marrons, on mettait des marrons. Pour le platin, cette fille aux cheveux châtains, je lui ai roulé des patins. Je me suis trop attaché, 200 mes t-shirts, j'ai taché. Maintenant, je monte sur scène avec l'équipe, j'encaisse les cachets. J'arrive comme Caris ou Chicken Def, style Renoir fâché. L'esprit de Sankara revient des morts, du Burkina Faso, de la faune, de l'Afrique, de la forêt au fond. Je combats les colons avec mes idées comme François, nom de la France, de Paris, ses quartiers, ici, tous ses bas-fonds. J'ai couru après une femme qui m'a rendu fou. J'ai la femme et le futur, l'avenir, je le vois flou. Je kiffe la vie tant que j'ai de l'inspiration et le flow. Quand y'a de l'amour dans l'air, je suis plus heureux, je flotte. c'est pas que des paroles, c'est des mots sacrés pour apaiser les cœurs. Psychologue, guérisseur, entretenir la flamme entre l'homme et la femme, ne pas faire d'amalgame. S'aimer comme deux âmes sœurs, comme Boubou, les grailles comme des bonbons. Dans Babi, en Boubou, bazar, entouré de vagabonds. J'ai grandi dans le zoo, va moins un entouré de béton. Ce que j'aime, c'est les hiéras, les apouchous, les vrais bebons. C'est doux, comme cette sonorité, comme deux sœurs qui s'envoient de l'amour, la sororité. C'est beau, comme la fraternité, comme des hommes qui font la paix. La nature est belle, je te préfère au naturel. Fuck le superficiel, j'aspire en des chaussettes noires, couleur ébène, descendant de rois et reines. Dans cette jungle urbaine, j'ai connu les joies, les peines.
Sont à pieds joints dans leur jungle pour voir ce qui se cache derrière.
Donne mon sang, esprit des animaux, de la vie, de la jungle urbaine.
À deux temps de petit, c'est très
jungle. La jungle, ça doit rendre froid.
Je veux mourir noir dans cette jungle, prendre la bonne gueule et partir un fort paradis airline.
Rendez-vous dans la jungle. Dans la jungle.
Le jingle de la jungle. Le jingle de la jungle.
La jungle, sa loi rend froid et marque les impacts de balles. C'est une question cervicale, l'homme réagit en animal.
La jungle urbaine,
la ville est une jungle.
Sont à pieds joints dans leur jungle pour voir ce qui se cache derrière.
C'était Jungle Jack, Soleil de l'amour. Vous écoutez etc. Et nous sommes toujours en compagnie d'Emma Becker et de Leïla Slimani. C'est l'heure de retrouver notre libraire belge, Raphaël Longo.
Etc. Lilia Hassen.
Et j'accueille notre libraire belge pour son conseil à lui. Raphaël Longo, bonjour.
Bonjour Lilia.
Enfin un homme dans cette émission, ça nous manquait pas. Vous travaillez à la librairie Livre au Trésor à Liège. Et cette semaine, vous vouliez rendre hommage au réalisateur David Lynch à travers un essai que vous avez adoré.
Rien ne meurt jamais. Souvenez-vous, ce sont sur ces mots que s'est terminé Elephant Man, merveilleux film qui fit pleurer la planète entière dans les années 80. Depuis le 16 janvier, la disparition de David Lynch, son créateur, cette sentence résonne comme un doux et fou espoir. Rien ne meurt jamais. Surtout pas l'œuvre d'un tel artiste qui a su si bien imprimer les émotions sur l'écran, de l'horreur à l'amour, du dégoût à la joie, de la colère à la mélancolie. David Lynch aura été le peintre des sensations pures, de celles qui, par leur puissance, vous collent à la rétine pour toujours. Cette semaine, je vous propose donc de retourner à Twin Peaks avec le livre de Louise Van Brabant, une jeune autrice belge, qui consacre un essai à la figure de Laura Palmer, protagoniste de Twin Peaks et héroïne lynchienne par excellence, la femme au miroir.
Et qu'est-ce qui vous plaît tant chez ce personnage de Twin Peaks, Laura Palmer ?
La figure de Laura Palmer est fascinante, elle est contradictoire, elle est onirique. L'histoire de Twin Peaks, série des années 90, est une histoire tragique, celle de son féminicide et des conséquences morales et philosophiques de ce crime. Et Louise Van Brabant, l'autrice de cet essai, analyse ainsi l'œuvre de David Lynch au prisme des recherches féministes et queer actuelles. Et le résultat est passionnant et éclairant. Ce qui est magnifique aussi dans cet essai, c'est que l'autrice nous fait ressentir tout l'amour que Lynch éprouve pour son personnage. Il semble être resté hanté toute sa carrière par la figure de Laura Palmer, qu'il a disséminé ensuite dans tous ses autres films, des éléments comme ça de sa personnalité, de son physique. De son monstrueux assassinat originel dans la saison 1, à la révolution MeToo qui irrigue toute la saison 3 de la série tournée en 2017, donc 25 ans plus tard, le livre met habilement en lumière l'évolution du regard du cinéaste sur Laura Palmer et les femmes de son cinéma, leur rendant parole et vie. Louise Van Brabant montre à merveille comment David Lynch a su inclure les luttes féministes dans son univers surréaliste et onirique. Jusqu'à tenter le geste le plus beau et le plus fort de sa carrière, aller chercher Laura Palmer sur les bords du Styx et la ressusciter d'entre les morts. Car oui, chez Lynch, la rivière coule, le vent souffle, les nuages passent, le cœur bat, et rien ne meurt jamais.
Rien ne meurt jamais. Le titre de l'essai, c'est donc La femme au miroir de Louise Van Brabant, c'est ça ? Aux éditions
Exactement.
Les Impressions Nouvelles. Merci Raphaël. Merci Emma Becker et merci Leïla Slimani.
Merci, merci.
Je rappelle le titre de vos livres. Pour vous, Emma Becker, c'est Le Mal Joli chez Albin Michel, roman qui réussit l'exploit d'être à la fois mélancolique et drôle. Je conseille aussi la trilogie de Leïla Slimani et en particulier le dernier tome qui peut se lire indépendamment des deux autres et qui est impossible à lâcher. J'emporterai le feu chez Gallimard. Merci aussi à nos libraires du jour, Audrey Martel, Catherine Collère et Raphaël Longo. Je rappelle qu'Etc. est une émission France Inter en coproduction avec les médias francophones publics. Merci enfin à mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Corentin Rouchy à la technique, Estelle Gap, Virginie Rouzic et Ethel Alzial, notre stagiaire dont c'est le dernier jour et qui va beaucoup nous manquer. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.